La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
J'ai de la bonne herbe pour vous, hein ? La meilleure qualité de toute la région.
Cannabis Circus.
Si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonsoir.
Bonsoir. Excusez-moi pour le jingle, encore une petite erreur. Celui, il sera plus élu, j'espère. Sinon, programme ce soir.
Je croyais que tu allais continuer dans ton jingle, mais
la Jamaïque va légaliser. En tout cas, elle dépose une.
C'est le Sénat qui.
Une proposition de loi. Voilà, donc ils vont travailler là-dessus. Est-ce que ça va passer? On verra bien. Quoi, légalise, c'est une contraventionnalisation, on verra tout ça. On va parler du Nebraska, encore un pays qui est quasi, quoi, un État qui est quasiment aussi répressif que l'État français. Voilà, après un grand débat sur le cancer du poumon, qui ne serait pas déclenché par le cannabis, et les gros fumeurs de cannabis auraient plutôt moins de cancer du poumon que les fumeurs de tabac. Il y a débat, ça a été repris sur des sites santé, ça a été lancé un peu par le Huffington Post. Voilà, et par contre, le Nouvel Observateur est offusqué tribune.
C'est un pneumologue qui dit n'importe quoi d'ailleurs. On verra pourquoi on dit qu'il dit n'importe quoi. Parce que...
Tu nous expliqueras tout ça.
Voilà.
Voilà, on viendra aussi sur Israël, où alors là, c'est la droite religieuse, a priori, qui pourrait dépénaliser.
L'extrême droite, on pourrait même dire.
On pourrait dire l'extrême droite,
c'est fou,
tout à
hein.
fait. Après, on parlera de choses plus étranges, un spray qui vient de sortir, ou qui est déjà sorti, mais voilà, donc là, on parle un peu, c'est vrai que moi, je n'avais pas plus entendu parler de ces sprays X qui favorisent l'orgasme féminin. Attention. Et enfin, on...
Des belles conneries aussi, je pense, mais bon, on verra pourquoi.
Voilà, et puis on finira sur la guerre des drogues. Le bilan d'un échec, donc ça nous fera une grosse partie, voilà,
c'est la suite de l'article de la semaine dernière qu'on a vu très
rapidement, on en reparlera un peu plus en détail. On va partir un petit peu en musique, avec encore
un petit peu musique,
pas tout jeune, et puis
on revient tout de suite après.
Une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ben nous on était cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur, en se disant qu'on se taperait bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ben voilà qu'elle nous prend par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. joint, la fille du coupeur de joint.
On a bien connu.
Et on va après,
on a bien
après
connu Tiefen, voilà.
Nous allons revenir donc à notre actualité de ce lundi soir. Avec donc la Jamaïque. La Jamaïque qui a décidé ce jeudi 22 janvier, c'est pas tout à fait aujourd'hui mais c'est il y a quelques jours, donc de transmettre un projet de loi sur la dépénalisation de la possession de cannabis en quantité limitée, évidemment, donc au Sénat jamaïcain.
Voilà, non, donc c'est deux le, ans, c'est le Sénat qui fait une proposition de loi et qui a été déposée le 23.
Ah, c'est le gouvernement qui
a présenté au Sénat. Oui.
Qui l'a présenté au Sénat. Voilà, 56 grammes, on peut avoir. Ou la culture de 5 plants de cannabis par personne.
Enfin, on n'est pas pénalisé en deçà de ça. De cette quantité, c'est ça que... Parce que c'est une dépénalisation, c'est pas une...
Voilà.
Une légalisation. Alors,
par contre, voilà, c'est pas une légalisation, c'est même pas une dépénalisation, ça devient une contraventionnalisation, puisque la possession et la culture de marijuana deviendront des délits mineurs passibles d'une amende. Alors, c'est peut-être au-dessus de 5 plans et au-dessus
ouais,
de,
voilà,
de
oui.
2 ans.
C'est en deçà de, cette, de ce plafond, en fait... Ben, on n'est plus poursuivi.
Voilà. Voilà. En plus, le Sénat inclut une licence pour la création d'une licence, pardon, qui permet la culture, la vente et la distribution de la ganja à des fins religieuses, médicinales et thérapeutiques. Donc, les médecins ou des officines de pharmacie, ainsi que des religieux, pourront en vendre. Voilà. Odieux, ganja.
Ouais.
Bah, c'est la Jamaïque, quoi. Hein. C'est
oui,
le
oui,
Jah,
oui,
pardon, c'est Jah le dieu. Pas Ganja, c'est Jah.
Oui, 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 si tu veux, après.
Il y en a en fumant le Shilom et la Ganja et qui font la prière à Jah. J'ai croisé ça.
Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, ouais, je trouve c'est pas spécialement intéressant. Après, je trouve que ce qui est. Intéressant et qui n'est pas mentionné dans l'article, c'est un petit article du Grand International.
Jérôme, on ne peut ne pas adhérer à ces croyances, mais il faut les respecter.
Non, mais moi je parle pas de ça, ce que je voulais dire, c'est, tu me laisses finir. Ce qui n'est pas dit dans l'article, c'est que grâce à cette décriminalisation, il y a certainement des milliers de Jamaïcains qui seront plus arrêtés, poursuivis et emprisonnés.
Tout à fait, voilà, ce qui est déjà une très
bonne chose. En fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, après... ceux qui en distribuent, c'est qui ils veulent, j'en sais rien, qui en fument et tout, des Jah, des Rastafariens, des...
Voilà, ça leur fait...
comme tu veux.
Ça leur fait le bonheur, en tout cas, pour eux. Voilà. Donc, on verra, c'est un grand soulagement, et c'est un mouvement dans la bonne direction, donc... dit l'un des chefs du mouvement Rastafari.
Voilà. Je trouve que c'est un peu réducteur et stigmatisant, en fait, aussi. Oui, mais... Parce que je pense pas qu'en Jamaïque, il y a que des rastafariens qui fument du cannabis, quoi.
Mais je me souviens qu'on avait déjà vu ça, quoi, justement, les rastafariens avaient essayé de déposer une proposition de loi il y a quelques années, parce que c'était une pratique religieuse, ouais, donc ouais. Ça pouvait pas être interdit. Voilà, voilà. Bon, on va passer à un contre-exemple ou un pays totalement différent, et en tout cas qui est assez étrange, le Nebraska, c'est ça quoi, un État américain.
Un État américain, ouais. Après, le pays, c'est les États-Unis.
Oui, grand pays s'il y en est.
Bah, grand pays avec 52 États quand même. 52 États, et dont 3 États ont dernièrement légalisé l'Alaska. Bien après, enfin un an après, le Colorado, l'État de Washington, et je crois l'Oregon aussi. Ouais. Donc quatre États. Voilà. Donc y a un État où, par contre, enfin il y en a pas qu'un, il y en a au moins une quarantaine d'autres, voire un peu plus, qui eux, en tout cas, n'ont toujours pas changé la loi, même si certains ont changé la loi au niveau thérapeutique. Mais le Nebraska, pour pas le nommer. Est un État où la criminalisation de la consommation est encore assez forte.
Ouais, presque aussi forte qu'en France. Hein. Ça va juste pour fumer, c'est bah, de 1 à 20 ans de prison et ou une amende de 25 000 dollars.
Ouais, c'est un peu moins qu'en France. Là.
Ouais. L'amende est un peu plus élevée, mais...
Chez nous.
Et par contre, on fait un peu moins d'années de prison pour simple consommation. Hein. On parle bien de... Ah non, c'est pour la vente, pardon, là c'est la vente. Ah bah non,
c'est... Non, c'est pareil.
C'est pareil, oui, c'est pareil. Nous, ça va jusqu'à 20 ou 25 ans. Oh là là, on connaît même plus ces classiques. Bon, en tout cas, voilà, bien qu'il y ait dans la loi un Cannabis Compassion Care Act, donc en fait, c'est pour que les gens qui ont besoin de chance thérapeutique puissent y accéder. Mais par contre, dans des conditions médicales handicapantes. Donc, pour que vraiment, c'est un petit peu comme en France, et vous avez le droit de le prendre si, et seulement si, vous avez essayé toutes les autres thérapies possibles et imaginables. Donc, dans ce cas-là, bon, si vous arrivez à prouver que vous avez tout essayé, on vous permet de prendre du chanvre. Ou du cannabis.
Oui. Donc, c'est un petit pas, un petit pas de fourmi. Là.
Bon, mais par contre, ce qui est étrange dans ce pays-là, c'est quand d'un autre côté, à la prochaine votation, ou je sais pas comment ils appellent ça, ils vont, avec l'Oklahoma, essayer de faire une légalisation sur le modèle du Colorado. Voilà, voilà.
Ouais, bah oui, disons que ce qui vient de se passer là aux États-Unis, enfin dans les États comme le Colorado, l'Alaska et tout, ça donne des idées à, je dirais, plein d'autres militants dans d'autres États qui, du coup, ben, forcément, se basent sur l'exemple qu'ils connaissent, c'est-à-dire le Colorado. Et donc, voilà, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, l'édifice prohibitionniste. États-Unien se fissure, se lézarde, s'apprête à tomber. Et donc, État après État, la prohibition va s'arrêter. Voilà.
D'accord, d'accord. On attaque le gros petit paquet sur le cancer, le cannabis qui ne provoque pas le cancer du poumon.
Eh bien, si tu veux.
Alors, c'est quoi tout ça? C'est une étude...
Alors, c'est une étude qui est parue dernièrement dans les annales de l'American Thoracic Society.
Oui.
Donc, la revue américaine de la Société des médecins qui s'intéresse à tout ce qui est thorax. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc c'est une étude qui a été conduite dans l'état de Géorgie, aux États-Unis, plus particulièrement dans la ville d'Atlanta, à l'université Emory. Voilà. Qui a donc tenté de savoir si la consommation de cannabis pouvait pas avoir des effets sur les poumons et le et le système respiratoire. Donc, cette étude qui a été conduite sur un échantillon d'adultes de 18 à 59 ans, dont je n'arrive pas à trouver le nombre.
160, je crois avoir lu quelque part.
Ouais.
Mais non, pardon, un échantillon. Non, 1200 personnes.
Non, ça c'est l'étude du professeur Tachkin.
Oui.
Et non, moi je te parle pas de cette étude-là.
Ah, tu parles de l'autre étude.
Ah bah oui, c'est l'étude en question dont il parle. Il y a eu des... L'article du professeur Tachkin, c'est une étude un peu référente qui a été faite aux États-Unis à l'université de Los Angeles, à UCLA, et qui est une étude très très importante. Mais là, c'est pas de cette étude dont il s'agit, en fait. C'est l'étude effectuée à l'Emory University of Atlanta. Et donc, cette étude montre que l'exposition au cannabis n'est pas associée à un déclin de la capacité des poumons. Et pour ce faire, il y a un coefficient qui permet de démontrer ça, c'est le coefficient de Tifeneo, qui est un rapport obtenu par exploration fonctionnelle des organes respiratoires. Voilà, il permet de montrer à quel point les bronches sont obstruées. Voilà. Et donc avec un joint par jour pendant 20 ans, les chercheurs ont trouvé que ce coefficient était intact, en fait. C'est-à-dire que le fait de consommer du cannabis ne fait pas évoluer le coefficient de Tifeno. Donc apparemment, d'après les chercheurs, rien à voir avec les effets du tabac. Voire même le cannabis pourrait être associé à des effets protecteurs sur les poumons chez les fumeurs de tabac de longue durée. Voilà. Alors ensuite, on nous reparle dans cet article là d'une étude de 2012 publiée dans le Journal of the American Medical Association qui allait également dans ce sens. Et cette étude de 2012, je me demande si c'est pas l'étude du professeur Tachkin, même si je suis pas arrivé à retrouver la date dans l'article de UFC Med. Voilà. Et elle montrait, cette étude de 2012, que la capacité pulmonaire des fumeurs de cigarettes diminuait, contrairement à celle des fumeurs de cannabis, qui pourraient même connaître des effets positifs. Voilà. Je cite, « La marijuana peut avoir des effets bénéfiques sur le contrôle de la douleur, l'appétit, l'humeur et la gestion d'autres symptômes chroniques. Nos résultats suggèrent qu'un usage occasionnel de la marijuana dans ces buts, ou pour d'autres, peut ne pas être associé à des conséquences défavorables sur les fonctions pulmonaires. » Voilà. Petit bémol, cette étude de 2012 soulignait qu'un joint par jour pendant 10 ans était associé à un déclin des capacités cérébrales, par contre. Autre bémol, on nous explique que aux États-Unis, culturellement, en fait, les fumeurs de cannabis auraient moins tendance à mélanger l'herbe au tabac, ce qui est plus une habitude francophone, en fait. Et par contre, fumer du cannabis mélangé à du tabac tous les jours, c'est comme fumer une cigarette par jour. Voilà. Et là, donc, c'est un article tiré de Egora.fr. Intitulé « Fumer du cannabis, c'est bon pour les poumons ».
Oui, oui.
Voilà, c'est pas nous qui le disons.
Non, c'est voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de le dire, surtout. Hein.
Voilà.
On n'aurait même pas le droit de parler de cette enquête sortie sur le site Egora.fr, santé et société. C'est bien ça. Hein.
Oui. Alors, autre article qui parlait de l'étude en question, l'étude de l'Emory University of Atlanta, c'était le Huffington Post. Et article intitulé « Effet du cannabis sur la santé, fumer un joint par jour pendant 20 ans n'endommagerait pas les poumons ». Donc bon, l'article du Huffington Post reprend en gros l'étude et ce dont je viens de vous parler et qui était tiré de l'étude de l'article de Egora.fr. Voilà, alors là, bon, un peu pareil, hein, on nous dit, bon, voilà, apparemment pour les poumons, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que, toutefois, ils ne ressentent pas d'autres symptômes respiratoires. Cela ne devrait pas faire non plus oublier les potentiels dangers pour le cerveau. Alors là, pareil, dans l'article du Huffington Post, on ne connaît pas l'échantillon d'adultes de 18 à 59 ans. nous dit que cet échantillon est large.
Ouais, dans les deux cas, c'est la seule chose qui dit.
On ne sait pas, mais c'est important de savoir, parce que
tout à fait.
L'étude elle est faite sur 200 personnes, bon, ça veut globalement pas dire grand-chose. Si elle est faite sur plus de 1000 personnes, comme le professeur Tachkine, déjà, ça a un autre impact. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'étude, dans l'article, pardon, du Huffington Post? Là, on nous dit que, à part effectivement le fait qu'il n'y ait pas vraiment de lien avec les cancers au niveau du poumon, on nous rajoute que la marijuana peut avoir des effets bénéfiques sur le contrôle de la douleur, l'appétit, l'humeur et la gestion d'autres symptômes chroniques. Les chercheurs disent également « Nos résultats suggèrent qu'un usage occasionnel de la marijuana dans ses buts ou pour d'autres ne peut pas être, peut ne pas être associé à des conséquences défavorables sur les fonctions pulmonaires. » Bon, là, ils ont repris un peu ce qui se disait dans l'article d'Egora. Voilà. Ensuite, des risques malgré tout, un peu plus loin dans l'article. Mais écoutez bien, c'est intéressant. L'amélioration des capacités pulmonaires pourrait être expliquée par l'étirement requis lors de l'inhalation de grandes bouffées qui caractérisent la consommation de cannabis. Alors, d'une part, c'est intéressant, mais c'est quand même vachement cliché. Hein. Voilà. Bon. Alors, peut-être qu'aux États-Unis, les consommateurs, les adeptes américains de cannabis ont une manière de fumer qui est vraiment drastiquement différente de celle des fumeurs de cigarettes, de tabac. Mais bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Voilà, donc bon, on reprend également ces autres éléments, le fait qu'aux États-Unis, visiblement, il y aura une manière très culturelle de fumer du cannabis où on mélangera assez peu avec du tabac, ce qui n'est pas le cas en France. On nous parle d'autres symptômes, l'impression de la bronchite, de la toux, maux de gorge, respiration courte. On nous ressort les effets négatifs de la drogue chez le cerveau, notamment chez les jeunes. Voilà. Bon, pour finir, on nous dit quand même que les risques ne sont donc pas totalement absents, mais bien éloignés de ceux liés au tabac. Et pour finir, en France, la consommation de cannabis est toujours illégale. Voilà un peu la teneur de l'article du Huffington Post. Et pour finir... Ah, excuse, tu voulais dire quelque chose ?
Non. Pour finir, le Nouvel Obs.
Le plus du Nouvel Obs, le plus Nouvel Obs. C'est pas le Nouvel Obs, c'est le plus Nouvel Obs. C'est une tribune d'un pneumologue, Marc Jabert, qui, au début de l'article, bon, on s'en rend pas trop compte, mais plus l'article avance, plus on a l'impression qu'il est pas bien sérieux, ce gars-là, ou qu'il dit des choses pas bien sérieuse, mais bon voilà, alors lui, il n'est pas du tout d'accord, bien évidemment, il nous dit comme ça que les conclusions de l'étude de chercheurs américains parues récemment dans la revue Annals of the American Thoracic Society sont pour le moins surprenantes. Il est en effet totalement impossible que le cannabis n'endommage pas du tout les poumons.
D'ailleurs, je t'arrête un instant, je sais pas, il me semble que tu n'en as pas parlé.
Ah.
C'est dans un des articles, un des premiers, je crois, celui du Medorg, que c'est le THC qui aurait des effets particuliers contre le cancer, puisque celui-ci pourrait éliminer des cellules en fin de vie pour leur éviter de devenir cancéreuses, pardon. Voilà, donc ce serait le THC ou en tout cas un cannabinoïde qui éliminerait les cellules en fin de vie et donc leur empêcherait de devenir cancérigène ou cancéreuse tout simplement, pardon, je ne veux pas y arriver.
Ok, et c'est dans quel article ça ?
C'est dans le premier, c'était justement ce que je cherchais parce que j'étais sûr.
Dans le premier, c'est-à-dire lequel ?
Dans celui, justement, de l'UFC Med.
D'accord, donc pas l'étude en question, l'étude du professeur Tachkine.
Oui.
Voilà, alors, ok. Je vais avancer un peu dans...
Mais t'avances, c'était un fait que j'avais lu et que j'avais pas
alors,
retrouvé.
Alors, garde-les bien pour toi, parce que là, tu vas devoir amener des réponses à... délirant de Marc Jabert. Donc attends, non, je continue. Alors justement, toi, t'as tous les bons arguments du côté de Tachkine. Enfin, quoi que lui, il va pas sur le terrain neurologique, par exemple.
Ouais, lui, il a fait une autre étude, ou en tout cas, il a fait un bouquin où il affirme des choses et ouais, il va se dédire.
Je sais pas. Bref, donc, ce qu'il nous dit, lui, c'est que ça lui paraît complètement impossible que le cannabis n'endommage pas du tout les poumons, sans nous dire pourquoi, par contre. Sauf dans des cas exceptionnels, on ne sait pas non plus pourquoi, et en raison de la toxicité de ses composants, alors on ne sait pas de quels composants il parle non plus, mais vous allez voir plus loin. Alors d'abord, d'après lui, en fait, un joint équivaut à 5 cigarettes, on ne sait pas encore une fois d'où il tire ça.
Voilà, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années et des années, oui, sans avoir vu aucune étude qui pourrait lier.
C'est le sens commun, oui, on ne sait pas trop.
D'où ça vient, voilà.
Et alors, plus surprenant... quand même, si vous nous écoutez assez régulièrement ou si vous vous intéressez au cannabis et notamment à ses effets thérapeutiques et aux applications qui sont mises en œuvre, eh bien, vous n'auriez que fait que sauter en l'air en lisant cet article ou en entendant mes propos. Enfin, en tout cas, c'est pas les miens. Hein. Alors attention, hein. Le cannabis est une plante qui a des effets euphorisants et présente une composition hyper toxique qui dépasse de loin celle de la cigarette. Cette plante contient en effet du tétrahydrocannabinol, un produit très toxique qui lui a valu son classement dans la catégorie des stupéfiants. C'est complètement faux, monsieur Jabert.
Si, c'est vrai, c'est exactement faux, pour ça qu'ils l'ont classé.
Non.
Alors après, je suis pas d'accord avec toi qu'elle est hyper toxique, mais d'après la loi, c'est la raison que nos politiques ont invoquée pour la classer comme stupéfiant.
Je pense qu'en 1970, quand ils ont classé le cannabis dans les tableaux des stupéfiants, ils disent pas que c'est à cause du THC qui est un produit super toxique. Hein.
Ah non,
ils le savent pas. Hein.
Ils disent que c'est parce que la plante est super toxique, tout à fait.
Voilà. Et d'une part, la définition même d'un stupéfiant en France ne tient pas compte des propriétés des produits. Hein.
C'est un tissu d'ineptie qui s'appuie et qui prend sa légitimité dans la loi. Voilà, mais sinon je suis d'accord avec toi globalement, oui. On va pas polémiquer.
Ben si, c'est important.
Vas-y,
ça
après,
nous donne l'occasion de rappeler des choses qui sont assez incroyables, mais donc voilà.
Bon, après, il raconte des chiffres sur des pourcentages de produits toxiques dans un joint ou dans des cigarettes, on ne sait pas d'où il sort ça. Après, il parle des conséquences.
Alors attends, si justement, contrairement à ce qui était dit dans les articles avant, où là on nous disait que justement aux États-Unis ils consommaient pas du cannabis de la même manière qu'en France. Et que là, c'est l'article d'Egora où on nous dit que fumer du cannabis mélangé du tabac tous les jours, c'est comme fumer une cigarette par jour. Une cigarette par jour. Selon Monsieur Jabert, quand on fume un joint, ça équivaut à 5 cigarettes. 5 fois plus. On ne sait toujours pas d'où il sort ça. Et en conséquence, attention, les fumeurs de cannabis ont 20 fois plus de chances de contracter un risque du cancer des poumons que les consommateurs de tabac. Et qu'attention, l'association cannabis-tabac multiplie ce risque de cancer par 30. Voilà. Bon, visiblement, lui, il sait faire des multiplications. Après, bon, alors, les effets sur le système nerveux. Les effets, je vais y arriver. Ah oui, le système nerveux, avec une altération de la mémoire, une dépression, avec une anxiété généralisée, voire des états de panique, ça peut aussi aggraver une schizophrénie, altérer une puissance sexuelle et fausser le seuil de la douleur. On ne sentira plus la douleur qu'au-delà d'un certain degré. Alors, je crois que là, on est vraiment dans le... En gros, vous fumez du cannabis, vous êtes envoûté, quoi. Vous êtes complètement envoûté, vous allez vous déchaîner sur les gens, ils vont vous taper dessus, vous n'allez rien ressentir parce que vous serez sous l'effet du cannabis. Là, on est en plein 19e siècle. Ah, hein.
Mais t'as sauté, les effets néfastes du cannabis sont à la fois généraux et respiratoires. Hein.
Oui, bah,
je te passe sur tous les crachats et tout ça.
Ouais, mais j'ai pas repris le côté bronchopulmonaire.
Après, c'est le cannabis qui altère la production et la qualité de spermatozoïdes.
Ah oui, puis vous n'avez encore rien entendu. Hein.
Ça, on n'en sait rien.
Mais chez la femme, les effets sont encore pires. Chez la femme, il ne faut surtout pas que les femmes fument du cannabis. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'elles aient des relations sexuelles, en tout cas. Parce que quand vous êtes une femme et que vous avez des relations sexuelles non protégées, vous pouvez tomber enceinte, oui, mais vous pouvez faire une grossesse extra-utérine. Voilà, voire même après une fausse couche ou une naissance prématurée. Alors là, c'est lui, vraiment, il a lu tout Naas, visiblement, de l'ancien conseiller drogue de Jacques Chirac à la mairie de Paris, et puis qui était aussi aux Nations Unies. Hein, Naas, c'était un médecin, un grand prohibitionniste, un grand ennemi du cirque à sa création. Voilà, enfin là, quand on lit ça, on se dit vraiment, ils sont allés ensemble à l'école. Donc, pour finir, non, le cannabis n'a pas d'effet protecteur. Il est donc mensonger d'affirmer que le cannabis a des effets protecteurs sur les poumons. Ne confondons pas ses effets bénéfiques sur la douleur et ceux sur la santé de manière générale.
Et la dernière phrase, elle n'a pas piqué des verres, je te la laisse.
Ok, bon, donc, il nous dit quand même, hein, dans de rares cas, le cannabis peut avoir des effets bénéfiques.
Ah mais dans de très rares cas.
Mais vraiment très rare. Donc, lorsqu'il est utilisé comme antidouleur ou contre la diarrhée de la maladie de Crohn. Voilà. Mais ces derniers avantages sont très minimes comparés à la dangerosité du produit.
Il a oublié aussi dans les maladies rares qu'on peut soigner avec le
cannabis. La sclérose
cannabis.
En plaques, par exemple.
Oui.
Enfin, ou, plus autre, hein, la colite ulcéreuse.
Je pensais aussi à celle où tu dis, tu insultes tout le monde.
Ah, la maladie, oui, le Gilles de la syndrome Gilles de la Tourette.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Ah oui, là, visiblement, il a pas vu la vidéo.
Il en a raté quelques-unes, même dans les rares cas où c'est utile, ouais. Sans compter des autres.
Bref, en voilà. Tout cas, voilà, si vous avez des problèmes de poumons, surtout n'allez pas voir le pneumologue Marc Jaber.
Ouais. Ah,
parce que je sais pas à quoi vous allez ressortir comme traitement, mais. Ça risque que.
Je te propose, on se fait les deux dernières petites brèves pour se détendre, là, après ce gros passage scientifique ou mensongeo-scientifique pour finir.
Délirant.
En, ouais. En tout cas, bon, le débat sur la dangerosité du cannabis au niveau pulmonaire n'est pas classé non plus, a priori.
Non, alors justement, tu m'as un peu pris de court parce que du coup, moi, j'avais mis en premier l'article de UFC Med à propos de l'étude du professeur Tachkine. Mais voilà, en fait, j'avais ajouté ça dans notre revue de presse pour qu'on prenne acte que cette étude, à mon avis, est une référence dans le monde entier. Hein. Quand même savoir que Tachkine, c'est un grand professeur qui a fait de nombreuses études sur le cannabis pendant plus de 30 ans. C'est un gars qui, au départ, est un prohibitionniste convaincu, qui a étudié le cannabis un peu en long, en large et en travers toute sa vie avec l'intention réelle ou pas d'ailleurs de communiquer ou de dire que le cannabis était un produit dangereux. Et aujourd'hui, le professeur Tachkine, il est complètement revenu là-dessus. C'est-à-dire que c'est un gars qui est devenu un anti-prohibitionniste et qui est à son niveau quelqu'un qui milite pour la légalisation du cannabis. C'est assez incroyable. Et je vous lis quand même un peu ce qui dit comme ça, voilà. Nous avions émis l'hypothèse qu'il devait y avoir une relation entre l'usage du cannabis fumé et le cancer du poumon, relation d'autant plus établie que la consommation était importante. À la place de cela, nous n'avons découvert aucune relation de cause à effet, même la suggestion d'effet positif. Ah. Alors, pour faire cette étude, c'est pas lui tout seul qui l'a fait. Elle a été financée par le Bureau fédéral de la santé et de la lutte contre la drogue. C'est le Bureau fédéral de la santé et de la lutte contre la drogue qui ont largement utilisé les précédentes recherches de Tachkine sur la marijuana pour conclure que le cannabis était dangereux. Lui, Tachkine, il pensait que c'était pas anodin, il pensait que son caractère cancérigène n'allait plus intéresser personne. Comme ce fut le cas avant l'étude. Hein. Mais voilà, il dit comme ça. De précédentes études avaient établi que le cannabis contenait des agents chimiques cancérigènes potentiellement aussi dangereux que ceux contenus dans le tabac. Cependant, le cannabis contient du THC, un composé chimique qui pourrait éliminer, comme tu disais tout à l'heure, les cellules en fin de vie et leur éviter de devenir cancéreuses. Donc, voilà, encore une fois, Marc Jaber, il se rhabillait là. Donc voilà, c'est là que je voulais finir. L'étude de Tachkine qui a quand même pas été financée par Soros qui veut la légalisation, non. Cette étude, elle avait été financée par l'Institut National de la Santé et des Addictions, ce qui a été réalisé à partir d'un échantillon de 1200 personnes souffrant d'un cancer du poumon ou des voies aériennes supérieures, et d'un autre échantillon de 1040 personnes n'ayant pas de cancer. Et ces différentes personnes furent placées en différentes catégories, telles le sexe, l'âge et le niveau. Voilà. Et toutes ces personnes furent interrogées sur leur usage de marijuana, de tabac, d'alcool durant leur vie. Les plus gros consommateurs avaient allumé jusqu'à 22 000 joints dans leur existence et les un peu moins consommateurs entre 11 000 et 22 000. Donc voilà. L'étude, à mon avis, qui fait référence sur toutes ces questions, avant même l'étude en question menée par l'Emory University d'Atlanta sur l'échantillon, large échantillon, 18 à 59 ans. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire?
Bon.
Musique?
Musique ou... Ouais, allez, musique.
J'ai bien connu Mexico Bay. J'y ai croisé un japonais. Il m'a dit marche sans te presser, y'a pas grand chose à visiter. Je suis passé chez Walt Disney, y'avait tout un tas d'allumés, avec des costumes de Mickey qui dansaient comme des avalés. De ce pays, et j'ai nagé vers d'autres eaux, des eaux remplies d'animaux qui s'engueulaient dans la télé. J'ai rencontré Brigitte Bardot, elle m'a trouvé un peu par chaud. Elle m'a dit viens voir mon coco, je vais te présenter à mon blaireau. Couru jusqu'à l'Elysée. Là-bas le chef, j'ai réclamé. Il m'a dit, si tu manques de blé mon petit gars, y'a aucune raison d'espérer. J'ai rencontré Madame Maigret,
salope,
pour lui faire jouer du djembé. Elle avait l'air un peu gênée de parler à un étranger. Peut se tromper, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se tromper.
Merci. Et retour au direct. Toujours yes. Dans l'émission Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h, l'émission du Cirque Lyon.
Voilà, et on vient de s'écouter Mickey 3D en live, tout le monde peut se tromper.
Voilà.
Alors, très vite, deux petites brèves. On parlait de dépénalisation tout à l'heure. Alors là, c'est les intégristes. Cette fois, c'est les intégristes du parti sioniste religieux Ayaba Abayit Ayéhoudi. C'est dans JSS News. Voilà, donc il a été. C'est dans un site news. Ils étaient interviewés par des élèves. Et quand ils ont parlé sur le cannabis, eh ben, il y a des députés de ce parti, donc au moins deux, voire trois, qui se disent prêts à changer un petit peu la politique et en tout cas à revoir les statuts du cannabis, à adoucir les mesures contre les utilisateurs. Et ceci quand même, d'autant plus que le même si le cannabis le récréatif est interdit, le cannabis médical est autorisé et il est de plus en plus autorisé puisque Israël est devenu le plus grand producteur de cannabis médical au monde. Et surtout, principalement par rapport au choc traumatique dont on a parlé plusieurs fois, et donc ils utilisent du cannabis avec des très très forts taux de CBD,
D, voilà,
et très peu de THC,
voire pas. Ils sont parvenus au niveau botanique en fait à mettre en place au point des variétés voilà sans THC en fait, ne contenant que du CBD.
Voilà. Voilà, et puis autre chose, alors beaucoup plus olé olé, du côté de la sexualité.
Ça vient des États-Unis.
Ça vient des États-Unis.
Ça vient de Californie.
Voilà, c'est un spray. Donc c'est un spray coquin, un spray
qui serait censé stimuler le plaisir féminin.
Oui.
Voilà, un produit qui s'appelle le Foria.
Voilà, donc c'est la Californie qui va le commercialiser, mais c'est de l'échelle légale dans 4 États américains, donc les 4 États où le cannabis récréatif est autorisé.
Voilà. Donc,
C'est un spray, donc là c'est un spray externe.
Un spray, ouais.
Voilà, mais c'est unique. Bah, ça peut être aussi des sprays sublinguales ou autres,
oui,
dans la bouche.
Oui, d'accord.
Donc là, c'est des sprays externes, et puis c'est pas enfoncé non plus, donc c'est juste sur les parties extérieures.
Les parties génitales.
Génitales, ouais. L'extérieur, voilà, à utiliser 30 minutes avant. Donc il faut s'occuper pendant les 30 minutes précédentes, hein, y a plein de petits jeux.
Enfin, ce qui veut dire que le produit tout seul, finalement, ne marche pas. Il faut faire un peu plus que s'en pulvériser pour grimper au rideau, quoi. Voilà.
Tout à fait. Bah, après, il s'occupait. Après, on peut aller danser pendant une demi-heure aussi, avant peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est qu'il agit pas tout de suite. C'est surtout ça le truc. Quoi, le truc, a priori?
Non, je suis pas d'accord. Les concepteurs du produit conseillent aux utilisatrices de se détendre ou de s'amuser seul ou avec leur partenaire. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Oui.
Ça veut pas dire aller danser.
Tout à fait.
Enfin, tu peux danser avec ton partenaire en frottant.
C'est les conseils, voilà.
C'est ça, d'accord, ok. Alors, juste, il est fait à base de quoi, ce spray?
Il y a 2 mg de THC à l'intérieur, hein, a priori, dans 30 ml.
Non, mais il y a aussi de l'huile de noix de coco.
Oui.
Voilà. Il y a de l'huile de noix de coco, quand même. Donc, surtout, je dirais, il y a de l'huile de noix de coco et 2 mg de THC. Bon.
D'accord.
Moi, je pense que c'est un peu du.
D'accord. Donc d'abord,
la com, du business, tout ça. Je pense qu'il faut.
D'accord. Et peut-être même que, même si certaines actrices disent s'en offrir, c'est Miley Cyrus, entre autres.
Miley Cyrus, oui. Voilà. C'est une chanteuse, oui.
Voilà. Et bon, y en a quand même plusieurs qui se disent très satisfaites à avoir ressenti des orgasmes multiples, plus longs ou plus intenses que d'habitude. Voilà. Donc, voilà.
Mais bon, c'est pas un produit.
Mais c'est peut-être la noix de coco, tout à fait.
Non, peut-être que c'est le THC. Ce que je veux dire, enfin, il y a plein de trucs qu'on peut dire par rapport à tout ça, parce que il se trouve qu'en fait, faut remettre les choses dans leur contexte. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de fric qui est investi par différents labos pour mettre au point des médicaments ou des sprays, justement.
C'est pour ça que j'ai dit communication ou publicité.
Oui. Donc beaucoup d'argent qui est investi par des labos et tout pour justement. Lutter contre l'anorgasmie féminine.
Nous sommes d'accord. Hein, avant d'avoir lu de multiples études contradictoires là-dessus.
Et puis ce que je voudrais dire quand même, c'est que pour aller dans ton sens du business et tout ça, c'est quand même que le flacon, il vaut $88.
Ouais.
Ouais, c'est quand même pas rien, quoi.
Pour de l'huile de noix de coco.
Et puis 2 mg de THC, je trouve que c'est quand même vachement cher. Je suis pas certain que les personnes qui s'en soient servies et dont on cite dans l'article soient des personnes qui souffrent d'anorgasmie féminine. Enfin, les femmes, en tout cas, voilà. Donc, en gros, c'est pour s'amuser avec, quoi. Voilà. Et ça fait cher pour s'amuser à $88 le flacon, quoi. Mais bon. Mais
ça fait hype, quoi.
Ouais, si tu veux. Après, bon, venant des États-Unis, on n'est pas très étonné que y en ait qui a eu l'idée de sortir ce genre de produit.
Allez, on va peut-être passer au dernier article, là, parce que après, on va bientôt être comme la semaine dernière, être pris par le temps.
Eh bien, en avant.
Donc,
c'est quand même un peu plus intéressant.
Ouais. Voilà, le bilan d'un échec de la guerre contre la drogue. Donc, par Pierre-Arnaud Chouvi. Donc, voilà, donc si on le reprend dès le début, on reprend comment puisque il fait le bilan quand même d'un siècle de lutte contre la drogue, qui pour lui se solde, et pour nous aussi d'ailleurs, par un échec retentissant. Ça n'a que multiplié les trafics, renforcé la production et la consommation, et tout en réprimant les paysans, producteurs et les consommateurs. Voilà, donc il est temps de donner les moyens à un développement alternatif cohérent, comme ça qui commence. Je te laisse la suite.
Bien, si tu veux. Donc, je sais pas, on lit le texte.
Ça va faire long. On va pas arriver à la fin.
Moi, je pense qu'on va pas revenir sur le début de l'article parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Donc, on a parlé un peu de l'histoire et que justement.
On a parlé beaucoup de Brent la semaine dernière.
Voilà,
ça a été fait.
Beaucoup lié à la guerre contre la guerre de l'opium en Chine. Donc, je pense qu'on devrait passer un peu la deuxième partie. Guerre contre la drogue et développement alternatif. Je ne sais pas si on en a parlé, il me semble qu'on n'a pas trop parlé.
Voilà, oui, on a. Attends, je reprends un petit peu sur ce qu'on a vu.
Alors moi, je vais avancer.
Voilà, moi j'avais vu le nombre d'observateurs imputer cet échec de la prohibition à elle-même. Celle-ci a permis de dégager des profits élevés qui dynamisent le marché de la drogue. Donc c'est une spirale, c'est notamment parce qu'elle est illégale et risquée que cette économie est hautement rentable. D'où une spirale qui continue. Hein. Plus on a de répression, plus ça devient attractif, et donc plus il y a de l'argent, etc., etc. Donc c'est une spirale vraiment difficile. Et enfin, l'échec des politiques anti-drogues peut aussi être attribué de la même façon à la façon même dont la réduction de l'offre a été conçue et entreprise depuis le début des années 70. Voilà, donc la guerre à la drogue a très largement privilégié la répression de la paysannerie criminalisée par la prohibition internationale. Et donc, ils ont essayé d'éradiquer les cultures. Et cela a bénéficié cela n'a pas bénéficié aux cultures alternatives, même de substitution qu'on a essayé. Ça a toujours été un échec total. Voilà, donc, il n'y a jamais eu vraiment plus de politique suivie et continue, puisque de temps en temps, on les poussait à faire du café. Donc, du coup, comme il y avait trop de café, le prix du café s'écroulait, et donc les paysans se retrouvaient encore plus pauvres qu'avant. Donc, ils revenaient. Voilà, c'est dans tout ce qu'on a vu pendant des années. Voilà, et surtout, je crois que c'est là que tu en étais ou...
Je sais pas où t'es allé là, je te cache pas que...
Je suis au tout début, à la fin de la première page, début de la deuxième, je dirais.
Ah bon ?
Là, j'arrive à la politique anti-drogue face à ces échecs et à leur déni.
D'accord, oui, donc pas à la première page, mais... Oui, ok, enfin bon, bref. Donc voilà, alors là, dans cette partie-là... on repart un petit peu en arrière au niveau historique, parce qu'on nous dit que les rapports annuels de l'organisme de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime recensent les progrès réels ou supposés de la lutte contre la lutte mondiale contre la drogue. Et du coup, c'est intéressant parce que voilà, on nous dit qu'en 2006, l'ONU DC, en fait. En gros, les résultats ne sont jamais à la hauteur de leurs espérances, sont sans arrêt obligés de tordre la réalité. Donc, dans leur rapport de 2006, l'Office déclarait qu'il y avait eu nettement moins d'opium produit en 2005 qu'un siècle plus tôt, c'est-à-dire en 1905. Mais en 1906, l'empire du milieu était à l'origine de 85% des 41 624 tonnes produites dans le monde, et l'opium faisait l'objet d'un commerce imposé à la Chine par deux guerres, en 1839 et 1856, comme on en parlait avant. Et plusieurs traités iniques, donc les obligeants. Voilà. Donc, comme nous dit M. Chouvi, voilà, mettre en perspective la production de 2005 et celle de 1906 se révèle dès lors trompeur, sachant qu'un siècle de prohibition et plus de 30 années de guerre contre la drogue séparent les deux dates. Mais c'est vous dire à quel point ils en sont à l'UNUDC pour arriver à montrer des stats...
Aussi,
c'est assez hallucinant, quoi. Hein. Nombre d'observateurs n'ont pas manqué de le faire remarquer, regrettant à l'ONUDC, regrettant au passage que la sélection partielle et partielle des données par l'ONUDC décrédibilise ses travaux. Bon, vaut mieux dire un truc bêta que rien dire, visiblement. Hein. Et certes, comparer les 4620 tonnes d'opium produites en 2005 aux 41 624 tonnes de 1906 permettait de présenter un bilan plus favorable que si la comparaison avait été opérée avec les 1066 tonnes de 1970, par exemple. À l'époque, la convention unique de 1961 avait moins de 10 ans, et ni la guerre contre la drogue depuis 71, ni les premiers projets internationaux de développement alternatif 72 en Thaïlande n'avaient été engagés. Le rapport de 2010 de l'ONUDC s'inscrit donc indubitablement dans ce que certains ont nommé la politique du déni. La guerre contre la drogue, justifiée par une idéologie prohibitionniste aux relents puritains et racistes, là au moins c'est clair, c'est bien dit, hein, résiste à toute approche rationnelle. Elle se voit continuellement reconduite au lieu d'être remise en question. Les échecs, relatifs diront certains, de la prohibition se répètent depuis des décennies mais ne donnent lieu à aucune révision, si ce n'est au renforcement de moyens jugés insuffisants, et donc toujours insuffisants finalement.
Toujours insuffisants, tout
à fait. Parce que comme ça ne marche pas, bon, on va te donner encore plus de moyens. Alors il y avait un psychologue qui s'appelle Václavic qui disait « toujours plus de la même chose, mais ça ne marche pas ».
Tout à fait, donc après ils prennent le cas des États-Unis, donc... Ou même là, dans les États-Unis même, qui est le plus gros producteur de marijuana, rappelons-le. Et la fédération ou l'État américain était totalement impuissant à réduire la superficie. Donc en 2009, 31 000 hectares dans le seul État de Californie et plus de 44 400 dans tout le pays. Au moins.
Putain, c'est fou, hein. 30, plus de 80% en
malgré
fait,
voilà, un nombre 86, la puissance de la DEA, 86 bureaux dont un à Paris, dans 66 pays, 1470 agents, 65 millions de dollars. Quoi, voilà, c'est des chiffres ahurissants. Alors après, on peut aller en Amérique du Sud, où c'est un peu aussi la même chose. Hein, c'était Reagan dans les années 81-89. Qui avait essayé de la militarisation de la lutte contre le trafic, parce que c'était une menace contre la sécurité nationale. Donc des milliards de dollars de 2000 à 2005 qui ont été donnés à l'armée, à la police et à l'armée colombienne, contre seulement 8% au développement alternatif. Et les résultats du plan sont loin d'être à la hauteur de son financement. La Colombie comptait 157 200 hectares de coca en 2006, soit 13 200 hectares de plus qu'en 2005. Donc, a priori, tout ce qu'ils ont fait, tous les épandages aériens de glyphosate au mépris des populations indigènes, ont été sans aucun résultat pour la culture. L'Afghanistan, je ne sais même pas si on en parle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gégé.
Ben bien sûr.
Alors très vite, hein, d'ailleurs...
Il faut en parler.
L'article n'en parle pas, mais les années où il n'y a quasiment plus eu d'opium en Afghanistan, c'était quand il y avait les talibans.
Oui, triste record.
Hein. Si, il y en avait encore du côté du général ou du commandant Massoud. Et c'était lui, parce que comme personne ne le finançait...
Il fallait bien qu'il se finance.
Il fallait bien qu'il se finance et il avait que ça. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on peut dire? 4565 tonnes en 99, 8200 tonnes en 2007.
Bah oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a essayé de mettre en place du développement alternatif. Alors, on sait un peu la petite partie après des chiffres là, mais en Afghanistan, comme dans différents autres pays, on a essayé de proposer ou de travailler avec les agriculteurs pour cultiver autre chose que du pavot. Visiblement, marche pas trop, quoi. Hein.
Voilà, après, on arrive sur l'éradication forcée.
Versus développement alternatif, donc voilà...
Voilà, donc plutôt qu'essayer de faire en sorte que les agriculteurs plantent autre chose, on a plutôt fait du glyphosate, vraiment éradiqué de façon militaire. Là, il dit une phrase assez intéressante. On peut en effet raisonnablement estimer que son échec, donc l'éradication forcée et l'échec de la prohibition, est imputable à la faiblesse des méthodes et des moyens financiers mis en œuvre, plutôt qu'à la logique qui le sous-tend. Voilà. La stratégie donc de développement alternatif n'a pas failli parce qu'elle est inadaptée, mais parce qu'elle a été sous-utilisée, la réduction des productions agricoles illégales ayant trop souvent été dissociée des questions du développement économique. Et il continue puis en disant que la pauvreté constitue la cause première du recours à la production agricole de drogue. Voilà, donc après, il faut se poser, c'est toute une question philosophique qui soulève que les paysans de la drogue sont souvent en perçus comme des criminels, alors qu'en fait, c'est des victimes du sous-développement économique.
Voilà, imposé globalement, bien souvent, par les puissances occidentales.
Hein. Tout à fait, tout à fait.
Pour l'oublier, hein, malheureusement.
On peut rappeler ça, le rôle de nos multinationales, nos multinationales alimentaires qui arrivent à produire des produits à des coûts tellement bas que les cultiver n'est pas intéressant. Je pense à des poulets, par exemple.
Ouais. Oui, ben il y a ça, mais bon, c'est un mélange de plein de choses, quoi, parce que.
Tout à fait.
C'est aussi des influences politiques, diplomatiques. On voit ce qui s'est passé en Afghanistan ces 10 dernières années, voire ces 40 dernières années. Hein. Bon. Nous avons notre part de responsabilité.
Voilà, je te laisse le dernier paragraphe.
Ben, si tu veux, merci. Moi, je vais le lire. Voilà. Donc, pour terminer, hein, le déploiement du développement alternatif a été entravé donc, par diverses contraintes économiques, politiques et idéologiques. Néanmoins, les quelques expériences positives auxquelles il a donné lieu permettent de penser que cette approche recèle un potentiel encore non exploité. On ne peut en dire autant des stratégies répressives qui ont été conduites pendant près de 4 décennies à des échelles et avec des moyens dont le développement alternatif est loin d'avoir bénéficié. Et c'est ça aussi. C'est qu'on a, si on avait autant investi dans les méthodes alternatives, on aurait peut-être vu d'autres résultats, mais on l'a pas fait. Et donc c'est notamment le cas des programmes d'éradication forcée, voilà, qui en aggravant la pauvreté des paysans, pourtant reconnue comme l'une des principales causes du recours à la production agricole de drogues illégales, se révèle non seulement inefficace, mais contre-productif. Voilà, on imagine les paysans déjà particulièrement précarisés, pauvres, qui n'ont pas trop d'autres solutions que de cultiver de l'opium, mais chez qui on vient déverser des produits toxiques pour les empêcher de faire pousser du pavot, et au final ça empêche de faire pousser à peu près tout et n'importe quoi, donc bon, bah, ça encourage pas à changer de son point de vue. Voilà. Donc un article intéressant donc de Monsieur Chouvi. Je vais vous redonner l'adresse du site internet si ça vous intéresse. Il y a d'autres articles
c'est
très intéressants.
C'est www.lavidesidees.fr/la-guerre-compte-la-drogue-bilan-d'un-échec avec un tiret entre chaque mot.
Voilà.
Voilà, bah, voilà. Je pense que c'est
là-dessus que... On est bien à l'heure aujourd'hui en plus.
Ouais, et donc on va se quitter et on va mettre fin à cette émission. Ciao à toutes, ciao à tous.
Tu vas à un enterrement là ou quoi? Juste à temps, avant de partir, cette émission vous était présentée par le Cirque Lyon, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous envoyer un mail cirque-lyon@no-log.org. Et on a un site internet www.cirque-lyon.fr. Sinon, vous pouvez nous écrire ou également par voie postale. C'est aussi le moment de s'abonner, de se réabonner, de réadhérer, pardon. Donc, Cirque Lyon, boîte postale 93 043 69 605, Villeurbanne, Sedex. Voilà, c'est donc la fin de Cannabis Circus, lundi 26 janvier 2015. Maintenant... Et quand il sera prêt, et ça va pas tarder, bah ça va être chasseur de son.
Voilà, donc on va vous dire bonne soirée à tous. Fumez bien, fumez soin, bien, fumez sain, fumez pas trop, mettez des filtres. Le tabac, c'est mauvais. Voilà, allez, à la semaine prochaine.
Tiens, tu me dis, je sais pas ce que c'est.